des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Axel Mauger.
Je suis particulièrement heureux de recevoir aujourd'hui sur les ondes de Canal Académie un francophile norvégien qui a vraiment un cursus tout à fait intéressant. Alors, je vais vous dire de qui il s'agit. Il s'appelle Rolf Tobiasen. Il est né à Kristiansand en Norvège. Et après un baccalauréat norvégien en section classique passé il y a un certain nombre d'années, il a occupé plusieurs postes dans les lycées et dans des universités, notamment a été maître de conférence de français à l'université d'Oslo, directeur du centre de coopération universitaire franco-norvégienne et directeur du centre de coopération franco-norvégienne en sciences sociales et humaines, d'ailleurs localisé ensuite à la maison des sciences de l'homme à Paris. Il a fait aussi certaines recherches, notamment sur la littérature française, un livre en français « Nature » et « Nature humaine dans l'Émile » de Jean-Jacques Rousseau, Paris-Oslo, en 1962, et un certain nombre d'articles. Alors, surtout, Rolf Tobiasen est non seulement, comme on l'a vu, un professeur, un chercheur, mais aussi et surtout un homme d'action, un homme de terrain. C'est un animateur, directeur de l'Institut français de l'Université d'Oslo pendant un certain nombre d'années, directeur des études du même institut, animateur. Et c'est un homme qui, dès qu'il a pris sa retraite, enfin, ce genre d'homme ne prend jamais vraiment de retraite, dès qu'il a pris sa retraite, a décidé de prendre le taureau par les cornes et de s'immiscer davantage dans cette question, ou encore plus, je veux dire, plutôt que davantage, dans cette question du français. Et il se bat comme un lion norvégien, bien sûr, pour aller de l'avant et donner une place aux Français dans un contexte qui n'est pas toujours facile. Je rappelle aussi que dans le domaine de la recherche, en 2010-2011, il est responsable de la rédaction d'une grammaire française de 650 pages, écrite par un de ses collègues, Harald Gulitschen, et qui a été publiée en avril 2011. Aussi, à partir de 2005, il a créé, en 2005, et il préside l'Association des membres de l'Ordre des Palmes, académique bien sûr, et actuellement il y a 43 membres sur les 50 décorés, ce qui est pas mal du tout. Il promeut le français dans les pays non francophones, notamment dans le Nord. Il est en train d'agir, nous allons en parler dans un instant, sur les questions à la télévision pour qu'il y ait, si possible, une TV5 ou l'équivalent de Arte, mais en français, afin que les habitants de ces régions-là puissent en bénéficier. Et il a été élu tout dernièrement, en 2011, membre du conseil d'administration de la MOPA, c'est-à-dire des Palmes académiques, etc. Alors je rappelle aussi, en conclusion pour cette brève introduction d'un francophile émérite, que Rolf Tobiasen a reçu plusieurs décorations de tout à fait prestigieuses de l'Ordre des Palmes académiques, dont il est commandeur. Il a reçu aussi la médaille d'or du mérite royal de Norvège. Il est docteur honoris causa de l'Université de Caen depuis 1998 et vient d'être nommé, enfin il a été nommé il y a peu de temps, en 2009, chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, c'est-à-dire la plus haute décoration française. Et il le mérite bien, comme vous allez le voir dans un petit instant. Bonjour Rolf Tobiasen.
Bonjour, ça va bien?
Oui, tout à fait. Nous sommes ici sur Canal Académie extrêmement heureux de vous recevoir, car vous êtes vraiment un homme de terrain. Mais non seulement de terrain, vous êtes un homme de réflexion et en plus un homme de terrain. Alors, d'abord, ma première question est la suivante. Pourquoi cet amour du français et pourquoi vous êtes-vous tourné vers le français? Avez-vous appris le français? Quel est le fil conducteur au départ?
Oui, ça pourrait être surprenant parce que dans ma famille, personne d'autre ne connaissait, ne maîtrisait pas le français. Non, c'est à cause d'un professeur, de mon professeur de lycée, Frédéric Vering, qui était un enthousiaste et qui m'a incité à apprendre le français. Et ce qui était surprenant, c'est par exemple que Après avoir étudié le français pendant 3-4 mois, j'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 16 ans.
Ah oui, oui, c'est assez tard.
Mais après 4 ou 5 mois de français en classe, M. Vering nous a dit « Maintenant, vous allez à l'Alliance française réciter des poèmes français. » Évidemment, on avait peur. C'était une camarade de classe et moi. Et il nous a dit « Vous allez réciter « Nuit de mai » de Musset. Toi, tu seras le poète et elle sera la muse. » On l'a fait. À notre propre surprise, les membres de l'Alliance française nous applaudissaient, étaient contents de nous. Et c'est un petit signe de la part d'un très bon professeur de donner confiance en soi aux élèves. Et il y avait d'autres situations analogues. On avait joué Peer Gynt, ou des extraits de Peer Gynt d'Ibsen en norvégien d'abord. Et maintenant, nous allons faire ça en français, il a dit. Après avoir étudié le français pendant un an et demi, et nous avons regardé les traductions, et ça peut vous surprendre, mais nous étions étonnés de certaines expressions dans la traduction du Comte Prosor, qui était un excellent traducteur, certainement, mais il y avait quelques modifications à faire, à introduire. Et nous avons joué ça. Moi, j'ai joué Pierre, le rôle principal, et c'était d'une durée d'une heure et demie. Et ces exemples-là, ça montre un excellent professeur qui inspire, qui
incite. Donc, c'est vraiment le modèle.
Le modèle, pour moi. C'est le modèle. C'est ça. Qui ne critique pas nécessairement, mais qui inspire à faire du mieux.
Et vous êtes allé en France pour la première fois en quelle année ? Ou à quel âge ?
J'avais 21 ans.
21 ans, oui, donc jeune aussi. Hein.
Et si je suis si bien content de ce premier séjour, c'est parce que le même professeur de français avait fait venir en Norvège un groupe d'étudiants français. C'était après une année de français au lycée qu'il nous a dit « Maintenant, vous allez rencontrer des étudiants français, vous allez parler avec eux. »
Et donc le côté vivant.
Côté vivant. Et au fur et à mesure, c'est devenu un cours d'été franco-norvégien. Et nous avons eu le plaisir, c'était pas la première année, j'ai commencé à faire des études de français à la fac, bien sûr. Je fais 4 années d'études de français, partiellement en France, partiellement à Oslo. Mais à ce cours d'été franco-norvégien, il a fait venir des personnalités françaises éminentes.
Comme qui ?
René Huyghe, historien de l'art, académicien.
Oui.
Georges Duby,
académicien aussi.
André Lichnerovitch, un mathématicien, membre de l'Académie des sciences.
Est-ce qu'aujourd'hui, en Norvège, à Oslo, est-ce qu'il y a quand même pas mal de francophones et de francophiles ? Est-ce qu'il y a un noyau, au-delà des gens décorés des palmes académiques ? Est-ce qu'il y a une communauté française, francophone, francophile ? Important
oui,
ou pas ?
Oui, je dirais.
Vous pourriez la chiffrer à combien de personnes à peu près ?
Oh, quelques centaines.
Quelques centaines.
Quelques centaines.
Ouais. Oslo, c'est une population de combien de personnes aujourd'hui ?
500 000.
500 000.
500 000 environ. Il y en a davantage. Si je dis quelques centaines, je veux dire les gens que nous voyons, que nous invitons à nos réunions. Si j'ai organisé, si j'ai créé la MOPA,
oui,
Norvège,
oui, tout à fait.
Ce n'est pas pour ajouter encore une autre association aux autres associations comme l'Alliance française, comme l'Association norvégienne des enseignants de français, Souvenir normand, l'Association des Français de l'étranger,
c'est pour les fédérer.
C'est pour les fédérer. Et ça a marché.
Est-ce que les alliances françaises en Norvège, est-ce que les alliances françaises reçoivent davantage de public ? Est-ce qu'il y a plus d'étudiants inscrits depuis quelques années ou pas ?
Il n'y a pas ces sortes d'activités à l'Alliance française à Oslo. Ils n'organisent que des réunions.
Ils n'organisent
pas de cours.
Mais est-ce qu'il y a, en Norvège, est-ce qu'il y a des cours qui sont organisés par les alliances françaises ou...
Non.
Ah non, il n'y a pas du tout de cours.
Non.
Ah ben vous voyez, je ne savais pas ça.
Ils organisent simplement des réunions
qui donnent,
sur des thèmes français.
Qui donne des cours de français en Norvège ?
Donc il y a les universités, mais il y a aussi l'Institut français, comme ça s'appelle maintenant, qui organise des cours. Et puis il y a des particuliers aussi. Et il y a beaucoup d'associations pour personnes âgées ou il y a des associations de bénévoles.
Est-ce que vous diriez que le français intéresse plus les gens dans la maturité ou les jeunes ?
Peut-être dans la maturité. C'est-à-dire que le système scolaire actuel est comme ceci pour ce qui concerne les langues étrangères. Au collège, il y avait dans le temps, quand je faisais mes études, il y avait deux langues étrangères obligatoires. En 1974, il y a eu une réforme.
Et c'était quoi ces deux langues ?
C'était l'anglais et l'allemand.
Ah oui, d'accord.
Quand on était au collège, on apprenait l'anglais et l'allemand.
Et aujourd'hui, non, il n'y a plus qu'une langue.
Et puis en 1974, on a réduit le nombre de langues étrangères. L'anglais est resté obligatoire et puis une deuxième langue est à option.
Facultative.
Oui, voilà.
Option.
Et quelque chose d'analogue donc au lycée, réduction de 3 à 2 obligatoire et une troisième langue.
Est-ce que ça a servi le français, ça, ou pas ?
Oui et non. Parce que le français n'avait pas sa place au collège. Avec la réforme de 1974, la France est possible au collège. En principe, de concurrence avec l'allemand, l'espagnol, le russe et le finnois.
En principe.
Maintenant, c'est quand même l'espagnol qui domine parmi les langues facultatives.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire quel serait le nombre d'apprenants, d'étudiants de français aujourd'hui en Norvège ? Est-ce qu'il y aurait un chiffre ?
C'est difficile à dire.
Et on ne peut pas le savoir.
On pourrait, mais je n'ai pas Avant 2000, vous avez l'habitude de dire qu'approximativement 10% des Norvégiens apprennent
des le jeunes, français. Des jeunes Norvégiens.
Oui, voilà. Maintenant, c'est en baisse.
C'est plutôt en
Peut-être
baisse.
Peut-être 7 ou 8.
7 ou 8%. Non. Quel pourcentage de jeunes dans la population norvégienne, je veux dire, à peu près, ça nous donnerait quoi ? J'aime bien les chiffres, j'aime bien les statistiques.
Vous posez une question très difficile pour un homme de lettres. Chaque génération chez nous est de l'ordre de 60 000.
Oui, donc ça ferait 6 000 et ça serait tombé à, mettons, 4 ou 5 000. Voilà. Donc,
par génération.
Oui, par génération. Ce qui n'est pas négligeable, ce n'est pas inintéressant. C'est pas,
non, mais
et en fait, le français...
Que davantage l'apprennent quand même.
Bien sûr, aujourd'hui, ce qui d'ailleurs serait dans l'intérêt de bien des gens, aujourd'hui, on pourrait dire que donc, le norvégien, bien sûr, ensuite l'anglais, suivi par l'espagnol, suivi par le français.
Oui.
Ça serait, donc le français arrive en quatrième position.
Oui, et un peu en concurrence avec l'allemand, ça dépend des régions.
Ah oui.
Mais je crois que l'allemand a perdu un peu de sa place.
Ah bon ?
Ces dernières années.
Et pourquoi l'espagnol ? Dans une région comme la Norvège.
Oui, c'est la question que nous nous posons. Pourquoi l'espagnol ? Oh, il y en a qui disent que l'espagnol, c'est facile. La prononciation est très directe, telle que c'est écrit.
Oui,
pas.
Oui.
Donc, et ça peut jouer pour les jeunes. Mais si on veut vraiment l'apprendre dans toutes ses possibilités, l'espagnol n'est pas plus facile que le français.
Non, je ne crois pas.
C'est ça.
Alors, dites-moi, on va peut-être passer un deuxième volet de votre belle activité. Vous avez là vraiment fait un travail formidable de coopération avec la France. Et je cite, 1979 à 1983, préparation de l'établissement d'un centre franco-norvégien en France. Alors, justement,
oui,
quand on dit, et ça c'est quand même intéressant, moi je suis très tourné vers le dialogue des cultures, j'y crois beaucoup, lorsque l'on va dire qu'une génération de jeunes Norvégiens qui apprennent le français, ça va être autour, mettons, de 4 ou 5 000 personnes, en France, combien de Français apprennent-ils le norvégien ? Est-ce que vous avez quelques chiffres, au minimal même, pour nous donner une idée quand même ?
Oh, peut-être dans les universités, autour de 1000, peut-être. 1000,
ah oui, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas négligeable.
Parce qu'il y a, c'est à Paris 4, Sorbonne, à Lyon 2, à l'université de Caen. En tout cas, dans ces universités-là, il y a des sections nordiques.
Nordiques, oui. Donc,
où on enseigne, entre autres, le norvégien. Et il y a un lecteur norvégien dans ces établissements. Mais le norvégien s'enseigne aussi dans quelques lycées. Vous savez peut-être qu'il y a plusieurs, il y a en tout cas 3 lycées français qui reçoivent des jeunes norvégiens. C'est le cas à Rouen du lycée Pierre Corneille.
Oui, tout à fait.
À Bayeux et puis à Lyon.
À Lyon, oui, donc ça donne une...
Lycée Édouard Herriot à Lyon.
Donc il y a quand même des points d'ancrage dans les deux pays, c'est important ça.
Et
c'est
en tout cas, à Bayeux, il y a un enseignement de norvégien pour les élèves français aussi.
Ah oui, donc, oui, donc ça permet les...
Ça pourrait s'introduire aussi.
De votre point de vue...
À Lyon.
Depuis les années 80 ou 90, les relations entre les jeunes, l'apprentissage de la langue, ça croît ou ça stagne, ou il y a quand même des avancées dans certains domaines? Quel est votre point de vue tout à fait personnel?
Et depuis, si, oui, depuis les années 80 jusqu'à ma retraite en 2004,
oui,
ça a beaucoup augmenté.
Ah.
Après, ça redescend.
Et pourquoi? À cause de votre retraite ou quoi? Pour quelle raison?
Je crois que c'est un peu parce que l'institution qui a hérité de mes activités, de mes programmes, ne s'investit peut-être pas autant. Non, c'est
une question de personne. Vous parlez tout à l'heure de professeur, c'est une question de professeur. Et vous avez quand même un rôle qui est sensationnel, parce que je vois qu'à partir de 1985, HEC, l'ESSEC, ESCP, EM Lyon vous confient la tâche d'organiser des tests d'admission en Norvège.
Oui.
Vous avez un rôle formidable. En 1992, programme spécifique en économie à l'UTI de Toulouse, programme Erasmus, vous êtes très investi dans les relations. Alors justement, vous avez accompli un travail tout à fait remarquable.
C'était très intéressant. Et si je l'ai fait, c'est... Oui, ça, on pourrait dire que j'adhère à ce logo, pour ainsi dire, de la MOPA. Servir et partager. J'ai trouvé que personnellement, j'ai tant profité de la richesse culturelle de la France... qu'il était tout à fait naturel pour moi d'essayer de faire le maximum pour servir, disons, la jeunesse norvégienne, pour qu'ils aient l'occasion de vivre en France, de faire des études en France et de prendre part à cette richesse.
Et dans l'ensemble, vous avez l'impression que tous ces jeunes pour lesquels vous vous êtes investi, vous avez fait découvrir la France, vous avez l'impression que le pari a été tenu?
Le pari a été tenu, oui. Les jeunes qui, par exemple, font des études d'ingénieur à l'INSA de Toulouse, une formation sur 5 ans, ils rentrent en Norvège enthousiastes du pays, reviennent très souvent voir leurs professeurs, leurs camarades français, et font venir en Norvège des camarades. Et il y a beaucoup de Français qui s'installent, de jeunes Français qui s'installent en Norvège.
Maintenant?
Maintenant, oui. Et qui trouvent un emplacement et qui retrouvent leurs amis norvégiens. Il y a beaucoup de couples aussi qui se sont installés comme ça, tant en France qu'en Norvège, après des études que j'ai essayé d'organiser pour eux.
C'est bien, parce que c'est très bien. Votre impression, ces jeunes Norvégiens, là je parle des Norvégiens, ces jeunes Norvégiens, qu'apprécient-ils de la France? Qu'est-ce qui vraiment... pour prendre une expression très jeune, qu'est-ce qui les fait flipper? Qu'est-ce qui vraiment leur plaît? En général, le retour, qu'est-ce qu'ils vous disent?
Je crois que c'est la variété, la richesse de ce pays dans tant de domaines. Par exemple, si on regarde la carte de la France, on voit que la mer du Nord et l'océan Atlantique et la Méditerranée, ça fait partie de la France. Avec tout ce que ça implique comme influence et comme pour la vie gastronomique aussi. Et ces contacts avec les Français pour les jeunes Norvégiens, je crois que ce qui les font revenir en France, c'est aussi qu'il y a une ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit chez les jeunes envers d'autres nationalités et d'autres cultures. Je crois que c'est une expérience authentique chez
nos camarades d'étudiants. Authentique, c'est un mot important. Et vous avez l'impression que les jeunes Français, eux, qu'est-ce qui leur plaît beaucoup en Norvège? Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Pour quelles raisons sont-ils séduits par la Norvège?
Il y a des Français qui me disent que le rapport entre les gens, c'est très simple. On entre beaucoup plus facilement en contact avec des Nordiques, des Norvégiens, peut-être qu'en France. C'est ce qu'ils disent.
Oui.
C'est... Et qu'il n'y a pas une hiérarchie tellement marquée. C'est une hiérarchie, j'allais dire, horizontale plutôt que verticale.
Que verticale.
Voilà, voilà.
Alors, j'en arrive au troisième volet de notre rencontre, si on peut parler de troisième volet. C'est le volet tout à fait actuel, il va sans dire. Et c'est votre rôle, un rôle très intéressant, votre arrivée dans la MOPPA, vos activités au sein de la MOPPA, et donc, je l'ai dit tout à l'heure, élu au conseil d'administration de la MOPPA en 2011, donc c'est tout à fait important, et vous dites bien l'importance de la pluralité culturelle et linguistique. C'est ce qui fait la richesse de notre Europe. Puis alors, j'ai lu avec énormément d'intérêt plusieurs documents que vous m'avez fournis, et notamment cet article qui va, je crois, paraître dans la prochaine revue de la MOPPA, vu qu'elle est sur presse.
Oui, je l'ai vu hier.
La Norvège, un organisme fédérateur et engagé. Et alors, là, vous allez de plus en plus loin, si j'ose dire. L'homme engagé que vous êtes, l'homme combatif que vous êtes, l'homme généreux que vous êtes, parce que ça se sent à travers tout ce que vous écrivez et tout ce que vous faites, le fédérateur. Et là, vous vous êtes rendu compte, à un moment donné, c'est très beau de parler, d'aimer les autres cultures, de favoriser les contacts, mais il faut agir et agir fortement. Et là, vous avez une action qui est tout à fait remarquable, c'est que vous vous êtes rendu compte que la télévision en Norvège était à dominance anglophone et que là, il serait quand même temps, à un moment donné, d'offrir d'autres menus aux Norvégiens et donc un peu de français. Alors, comment vous y êtes pris pour essayer d'amener la télévision norvégienne a changé d'attitude? Ça n'a pas dû être facile.
Oui, il faut dire que on n'a pas tout à fait réussi encore, mais on est sur une bonne voie, je crois. Non, j'ai commencé par écrire des articles parus dans la presse nationale, dans les plus grands journaux de Norvège. J'ai obtenu l'accord de plusieurs grandes personnalités culturelles norvégiennes pour signer d'autres articles. Et nous avons créé un mouvement, pour ainsi dire, qui a fait que la direction de la télé norvégienne m'a invité à venir discuter à la télé norvégienne. Différentes solutions, différentes possibilités de modifier la programmation de la télé norvégienne. Et je leur ai proposé une bonne cinquantaine d'excellents programmes en français, dont plusieurs étaient, bien sûr, d'Arte. Et au fur et à mesure, on peut constater que certains de ces programmes ont été introduits dans la programmation. Je garde un contact direct avec la direction de la télé, qui m'invite à d'autres réunions pour présenter d'autres propositions. Mais bien sûr, c'est un travail qui n'est pas terminé. Il faut regarder les statistiques. Pour moi, c'est très curieux. C'est très curieux tout ça. La dominance de langue anglaise est telle qu'on croirait que les programmateurs ne connaissent pas le reste du monde, ça. Il y a
mais comment vous expliquez
plus de 80-90% en anglais.
Mais comment vous expliquez ça? Mais 90% des émissions ne sont pas en anglais, elles sont en norvégien quand même.
En norvégien, oui. Mais je veux dire, des programmes qui ne sont pas
norvégien,
en norvégien.
90%
en anglais. Et même davantage.
Oui, et les autres langues, les autres programmes dans les autres langues, c'est quoi? C'est l'allemand le...
Il y a quelques programmes en allemand, mais c'est très très rare. Je me souviens d'une soirée où tout à coup j'ai entendu de l'allemand à la télé, mais c'était un très événement rare. Pour moi. J'étais très heureux d'entendre une autre langue que l'anglais. Je ne me bats pas seulement pour le français, mais pour la pluralité linguistique.
Je pense, si vous voulez, le combat, il ne faut pas faire de combat d'arrière-garde. Je crois qu'il faut se battre, en effet, pour le pluralisme.
Tout à fait.
Est-ce qu'on reçoit TV5 à Oslo?
Oui, il faut être abonné. Oui,
ah, il faut être abonné.
Payer pour ça.
Et est-ce que les gens sont prêts à payer pour TV5? Enfin, quelques centaines de personnes ou...
Oui, oh non, il y a des milliers de personnes.
Des milliers de personnes
qui sont abonnées.
C'est quand même intéressant.
C'est ça.
Il y a des milliers de personnes, ah oui.
Ah oui, oui, j'en suis sûr. Mais apparemment, on ne peut pas le capter n'importe où. Il y a un petit problème. Mais l'ambassade se bat aussi pour que TV5 soit introduite comme une chaîne normale, qui ne soit pas payante.
Ça, c'est une bonne chose. Mais alors, les programmes de français à la télévision norvégienne, il n'y en a pas eu encore. Il n'y a pas eu encore de programmes en français à la télévision norvégienne, des chaînes norvégiennes.
Ça dépend de ce que vous voulez dire par programme
en français.
Pas des programmes, disons, de discussion entre français.
Est-ce que ça pourrait venir, ça?
Oui, à condition qu'il y ait des personnalités importantes qui y participent. Non, on achète des programmes à l'étranger. Donc, et la télé norvégienne a signé un gros contrat avec la BBC, par exemple, qui implique qu'on prend un certain nombre de programmes de grande qualité, à condition qu'en à côté, on achète encore d'autres programmes de moindre qualité. Donc, mais
une sorte de panier.
Voilà. Et c'est comme ça que ça
marche. Alors, est-ce que vous sentez, avec les relations, les contacts que vous avez eus avec les hautes autorités de la télévision norvégienne ou les personnes que vous avez rencontrées, est-ce que vous sentez de la réticence d'introduire des programmes en français, voire sous-titrés en français? Est-ce que vous ressentez de l'intérêt, de l'étonnement? Quel est votre ressenti par rapport à ce panier que vous voulez offrir en disant « il faut un peu de français, comme on a un peu, on a de l'anglais, on a beaucoup d'anglais, il faudrait un peu de français, voire d'une autre langue ». Comment y réagissent ces gens-là?
Non, il y a une certaine réticence, ça c'est direct. Mais je crois que ça tient aussi au fait que le personnel ne maîtrise pas le français. Il y a le personnel dans la rédaction d'acquisition qui ne maîtrisent pas le français. Je leur ai proposé de trouver des gens qui maîtrisent le français pour leur confier ces tâches-là. Parce que si elles ne maîtrisent pas le français, on n'est pas tout à fait sûr de la qualité du programme quand on l'écoute, quoi. Donc, il est difficile de juger que si on ne maîtrise pas la langue du programme.
C'est un beau combat, cher Rolf Tobiasen, que vous menez. C'est un très beau combat. Et est-ce que vous avez l'impression, nous arrivons un peu à la fin de l'émission, elle n'est pas tout à fait terminée, mais est-ce que vous avez l'impression que le français est mieux ancré en Norvège qu'au Danemark ou en Finlande ou en Suède? Ou vous pensez que dans les pays nordiques, il y a un autre pays où le français est peut-être quand même plus vivant, plus dynamique? Quelle est votre impression générale?
Je crois que la Suède a de longues traditions historiques, n'est-ce pas, de contact avec l'Europe. Et en Suède, ils ont gardé une aristocratie aussi. Tandis que l'aristocratie a été abolie en Norvège en 1814, lors de notre nouvelle constitution. Et la Norvège était sous dominance tant danoise que suédoise pendant quelques temps. Et notre indépendance ne date que d'il y a donc environ deux siècles, n'est-ce pas? Et le contact avec la France est plus étroit en Suède. Pour le Danemark, peut-être ça a été le cas, mais je crains que ce contact se fioche un peu, oui.
Quoique le prince consort du Danemark est français d'origine.
Oui, ça peut avoir une certaine influence.
Et la Finlande? Et la Finlande?
Je crois que je n'ose pas me prononcer, mais je sais que, par exemple, il y a une présidente de l'AMOPA de Finlande, Claude Anttila, qui est française d'origine. Elle se bat fortement pour le français. Donc, il y a un bon espoir.
C'est très bien. Nous avons, alors, juste avant que cette émission s'achève, ce qui est tout à fait passionnante, vous menez donc un combat tout à fait sérieux, important, constant, et vous proposez aussi des actions pour le français, notamment dans un dossier que j'ai eu l'occasion de lire, et c'est-à-dire des argumentaires et des propositions. Vous avez proposé un argumentaire et vous faites des propositions d'initiatives qui sont des suggestions pour les adapter aux pays qui veulent apprendre le français, etc. Par exemple, les suggestions sont les suivantes. Votre pays est un pays latin non francophone, l'apprentissage du français est donc plus facile. Donc, vous faites des suggestions. Et ça, je crois que c'est important et c'est intéressant parce que finalement, dans pas mal de pays, chacun se débrouille avec les moyens de bord.
Quand j'étais président de l'Association norvégienne des professeurs français, nous avons entamé un travail de rédaction d'un dépliant, en norvégien bien sûr, et qui avait pour but de convaincre les parents et les élèves, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes, à opter pour le français. Un argumentaire, si vous voulez bien. Et à un certain moment, je me suis dit que mais ce travail-là doit se faire dans tous les pays du monde, dans le monde non francophone. Pourquoi pas les aider, les professeurs de français dans ces autres pays non francophones, à rédiger un tel argumentaire. Alors nous avons rédigé des textes et on a mis ça sur un site internet, www.amopa.fi. Si nos auditeurs ont envie de nous aider à améliorer ce site, j'en serais très heureux. Nos adresses figurent sur le site. Et il faut dire que ce site a été consulté l'année dernière par plus de 22 000 personnes.
Ah oui, c'est très important. C'est important.
Ce qui veut dire que le site occupe une fonction importante.
22 000 personnes, ce n'est pas négligeable.
Je demande et j'ai demandé à la MOPA nationale de m'aider à travailler sur ce site pour le mettre à jour, pour le professionnaliser. Maintenant, c'est plutôt comme un livre.
Ah oui, oui, d'accord. Qu'on lit, oui, c'est bien.
Il faut que ce soit un vrai site Internet avec toutes les possibilités que permet la technologie moderne.
Rappelez voilà. Le site. Rappelez
le
à
site,
nos auditeurs le site.
C'est donc 3 fois www.amopa.fi.
Écoutez, cher Rolf Tobiasen, nous pourrions continuer, mais vous savez que les émissions, il ne faut pas non plus que ça dépasse un certain temps. Vous reviendrez, je serai très heureux de vous recevoir à cette antenne. Je vous remercie infiniment. Et
merci
lorsque
aussi.
Vous fermez les yeux, vous pensez à la France. Quelles sont les 2-3 images qui aussitôt jaillissent dans votre esprit?
Je vois peut-être une église à Toulouse et j'entends les cloches de Saint-Sernin qui me souhaitent la bienvenue toujours parce que les cloches émettent des sons qui forment une chanson occitane que j'ai apprise lorsque j'avais 18 ans en Norvège. C'est canto qui canto, canto pas per you, canto per ma mio, que salente you. Voilà.
Vous écoutez un ami norvégien qui connaît la diversité culturelle française peut-être mieux que certains d'entre nous. Merci, chers auditeurs, et à la prochaine fois.
Merci, Axel.